Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et on va donc attaquer ce Cannabis Circus encore très chargé. On ne parlera pas de tout. Il se passe un petit peu d'actualité là-dessus de par le monde. On va vous parler de recherche un tout petit peu, sans doute au début. On vous rappellera que le cirque a 25 ans déjà. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on est triste? Voilà, on pensait que ça serait fini depuis bien longtemps. Donc on reviendra là-dessus. On reviendra sur Mediapart qui redonne la parole au cirque et puis à Esther Benbassa. Un long article. Bon, on reviendra un petit peu là-dessus. Sud-Ouest aussi, dépénalisé ou légalisé? Faut-il lever l'interdiction? La France. Lanterne rouge de l'Europe, il y a des articles quand même qui tapent un peu, voilà. Et donc, quelques articles de fond, on reviendra là-dessus, et quand on parlera d'ESPAD encore, c'est une étude sur les ados, voilà. Et puis pour finir, ou pas, parce que souvent, on arrive trop tard.
On termine trop tard.
On termine trop tard,
à la
voilà.
Bourre, tellement il y a d'infos.
On va oublier l'international avec le PS belge qui veut sortir du statu quo. Donc c'est bien, ils sont plus en avance que le PS français qui pense même pas sortir du statu quo. Un par un ou deux qui ouvrent leur bouche.
Y a-t-il encore un PS en France, franchement?
Et puis sinon, il y a un pays qui a avancé sur le cannabis thérapeutique, un État, c'est le Queensland, qui va peut-être faire tache d'huile en Australie, donc qui a légalisé tout le cannabis thérapeutique sous toutes ses formes de façon très large et très complète.
Quel que soit l'âge du malade, il peut effectivement se voir prescrire du cannabis thérapeutique, même pour des enfants.
Voilà, donc ça c'était sans doute quelque chose dont on parlera très peu, donc voilà, c'était juste pour faire un petit coucou comme ça à l'autre côté de la Terre.
Ouais.
Voilà, on va peut-être parler donc de l'article de la recherche sur les CB1, on a avancé là-dessus, c'est ça, non?
Il semblerait que des scientifiques de l'université iHuman Institute of Shanghai Tech, donc ça se passe en Chine, j'ai l'impression, si je comprends bien, hein, qui effectivement ont découvert, découvrent, ils travaillent sur les cannabinoïdes et tout, ils auraient découvert et analysé donc la structure atomique du récepteur humain des cannabinoïdes, donc c'est-à-dire ce qu'on a dans le cerveau en fait. Hein.
Oui, ce qu'on appelle souvent CB1.
Voilà, un récepteur endocannabinoïde, voilà, endo, donc dans nous, hein. Voilà, et également connu sous le nom de récepteur de la marijuana.
Voilà, c'est pour ça qu'on en parle régulièrement depuis un moment, mais ça fait un moment que voilà, les deux ont été alliés. On sait sur quoi le THC va se fixer.
Voilà, donc d'après les auteurs de l'étude, étude qui a été publiée la semaine dernière dans le journal scientifique Cell, CE2L, comme cellule, voilà. Cette nouvelle information, ces recherches, voilà, sont apparemment cruciales d'après les chercheurs pour mieux comprendre comment les molécules s'attachent et interagissent avec le récepteur, en fait, hein, le récepteur CB1.
Voilà, parce que je dis le THC, mais c'est tous les cannabinoïdes en général qui vont se fixer sur les CB1.
Voilà. Alors, d'après Raymond Stevens, qui est un des auteurs de l'étude, il dit comme ça, « Maintenant que nous avons trouvé la structure du CB1, nous pouvons commencer à comprendre comment des changements à la structure de la drogue peuvent agir sur le récepteur. » Voilà ce qu'il dit. Il y a aussi un autre d'autres docteurs, hein, qui s'expriment là dans l'article, docteur Mark Ware, qui est le directeur de la recherche clinique de l'unité de gestion de la douleur Alan Edwards du centre universitaire de santé McGill, voilà, qui estime voilà qu'il s'agit d'une percée importante en termes de recherche scientifique, hein. Visiblement, ceux qu'on trouvait sont pas les seuls à être enthousiastes, il y a d'autres chercheurs qui le sont. Même si l'utilisation des cannabinoïdes pour des raisons médicales aujourd'hui est quand même de plus en plus répandue, il y a encore quand même assez peu de données scientifiques sur la toxicité du cannabis. Voilà. Donc à tous ceux là, à droite, à gauche, un peu partout, en France et ailleurs, qui nous disent que le cannabis est dangereux, c'est toxique et tout, bah en fait scientifiquement on n'a finalement pas ou peu d'informations sérieuses, hein, sur la toxicité même du produit. Voilà. La majorité, en ce qui concerne des effets thérapeutiques, la majorité des effets thérapeutiques recensés ont d'abord en fait été amenés par les patients eux-mêmes, hein, plutôt que par des études cliniques fiables. Mais ce type de découverte devrait quand même permettre d'obtenir davantage de données probantes sur les effets, tant positifs que négatifs, de la consommation de la marijuana et de ses produits dérivés. Voilà. Donc comprendre, disent-ils, hein, le design du récepteur CB1 pourrait notamment expliquer la façon dont les médicaments contre la douleur, qui imitent les effets du cannabis, peuvent parfois provoquer des effets secondaires involontaires. Hein, parce que la structure moléculaire détaillée du récepteur CB1 offrira, je cite encore, un cadre précieux pour concevoir des médicaments sûrs et plus efficaces. Voilà ce qu'a déclaré le directeur adjoint d'iHuman, le professeur Ji Liu, qui est l'un des auteurs de l'article, un chinois. Voilà. Alors après, c'est bien ce qu'il parle des cannabinoïdes de synthèse.
Synthétique, oui, tout à fait. Ouais.
Alors, ils espèrent, ces chercheurs, établir plus clairement les distinctions entre les cannabinoïdes naturels, qui se retrouvent dans la marijuana, et les cannabinoïdes synthétiques, qui eux, par contre, sont créés dans des labos. Les cannabinoïdes synthétiques sont notamment utilisés pour réduire les nausées, les vomissements causés par la chimiothérapie. Alors là, on nous parle, par exemple, des médicaments comme, je les ai mangés. Comment ils s'appellent déjà?
Je ne vais pas t'aider là-dessus.
Si, tu te rappelles bien. Médicaments qui sont notamment prescrits aux États-Unis dans les hôpitaux et notamment pour les enfants qui ont des cancers. Le dronabinol, par exemple, voilà. Je cherchais les noms. Il y en a un autre aussi, je ne me rappelle plus. Il y a aussi, plus proche de nous, le médicament, le Sativex pour les symptômes de la sclérose en plaques. Voilà. On parle aussi d'autres médicaments pour stimuler l'appétit des personnes séropositives qui souffrent aussi d'anorexie. Alors, l'un de ces chercheurs, le docteur Stevens, précise que même si les cannabinoïdes synthétiques ont été créés pour imiter les cannabinoïdes naturels, leurs récepteurs se comportent différemment.
C'est vrai que c'est intéressant.
Eh oui, carrément. Parce que les raisons qui expliquent pourquoi le THC trouvé dans la marijuana est généralement plus sûr. Tandis que les cannabinoïdes synthétiques peuvent provoquer des effets secondaires et toujours être toxiques. En fait, pourquoi ils sont plus sûrs dans le cannabis naturel, on ne sait pas encore. C'est un mystère.
Voilà.
Alors, pour terminer, le même Raymond Stevens, qui est un des auteurs de l'étude, précise, hein, je le cite, « Il n'y a jamais eu de cas de surdose causée par le THC naturel trouvé dans la marijuana, mais il y a eu des cas de surdose grave et parfois mortelle liée à la consommation de cannabinoïdes synthétiques. » Voilà, et tous ces auteurs croient que leur découverte quand même contribuera à approfondir la recherche portant sur les effets de cette drogue.
Voilà, ça, juste pour compléter ça, c'est justement en parlant de cannabis synthétique, on vous en avait parlé l'année dernière, une fois ou deux, parce qu'il y a eu des cas du côté d'Annemasse, il y avait un petit réseau qui avait été découvert, et justement,
il y avait eu un mort,
oui, tout à fait.
Annecy,
oui. Et voilà, donc c'était pour, on était très sceptiques parce qu'il parlait de cannabis, etc. Et au moins avec des études comme ça, on arrive à remettre les choses à leur place et à comprendre ce qui est quoi, les dangers de chaque produit. Donc vive les plantes, a priori.
Oui, de manière générale, vive les plantes qu'on essaye d'éradiquer de la planète, malheureusement, pas que la marijuana, mais beaucoup de plantes. Déforestation, perturbation des espaces naturels, de la faune, de la flore. Tout ça qui cause bien des problèmes à la planète et bientôt à nous d'ailleurs, si ça continue. Allez, un peu de musique, à tout de suite.
Par hasard, un de ces cultivateurs modernes, sache que la main verte, l'expression de la création, cité un smoker de ces scène, c'est milieu, mais pas de gras. Ouais, sache que la bevette vient du ventre de la terre, notre mère. Préparez pour le jardin, enfile tes bottes et viens. Il faudra marcher dans la forêt par les petits chemins, car une tentation reste secrète, tu le sais bien. Tu ne dis pas n'importe quoi, tu n'amènes pas n'importe qui. Les chasseurs et les gendarmes sont nos ennemis. Fouineurs et les taxeurs le sont aussi. Je dis si t'es par hasard un de ces dreads horticulteurs. Ta passion pour ces fleurs est tout à ton honneur. Si t'es un smoker, soutiens-nous les plantes. Sache que la bevère vient du ventre de la terre, notre mère. Yeah, 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 yeah. Tu connais le développement, la floraison et le gel. L'eau de pluie est la meilleure, avec son pote le soleil. N'enlève pas ses feuilles au début, tant qu'elle ne peut pas grandir. N'arrache pas toutes ses branches, man, tu le fais souffrir. Boycott la poudre chimique de chez Babylon Garden. Tu fabriques ton engrais naturel, ça en vaut la peine. Je dis si t'es par hasard un de ces cultivateurs modernes, sache que la main verte est l'expression de la création. Si t'es un smoker de scène, c'est milieu, mais pas de gras. Ouais, sache que la bevette vient du ventre de la terre, notre mère. Yeah, yeah. Tu as besoin de matériel quand tu le fais à l'intérieur. Tu es seul avec Dieu quand tu es à l'extérieur. Des productions chimiques au cœur du béton me rappelle ces poulets entassés à sous les néons. Lâche ton cas manipulé, ne me procure pas ce que je veux. Si je fume de la weed, c'est pour être plus près de Dieu. Je suis ici, c'est par hasard un de ces dreads horticulteurs. Ta passion pour ces fleurs et tout à ton honneur. Si t'es un smoker, soutiens-nous les plantes. Et sache que la bevette vient du ventre de la terre, notre mère.
Ouais, petite chanson dédicace à tous les jardiniers.
Voilà, voilà. Pierre-Paul Jacques, cultivateur moderne.
Voilà. Bon, alors, continuons notre revue de presse hebdomadaire. Donc oui, avant de continuer, je vais quand même vous rappeler un peu de quoi il s'agit, de quoi ça retourne. Donc Cannabis Circus, l'émission du Cirque, le Cirque Lyon, le collectif d'information et de recherche cannabique lyonnais, qui présente cette émission depuis 23 ans maintenant. Donc c'est pas rien. Donc le Cirque, que vous pouvez contacter par mail à l'adresse suivante, cirque-lyon@no-log.org. Là, je vous donne les infos pour le Cirque Lyon. Hein. On a un site internet également, www.cirque-lyon.fr. Mais vous pouvez également nous joindre par voie postale, Cirque Lyon, BP 93 043 69 605. Villeurbanne, CEDEX.
Oui, et ceci depuis 23 ans.
Voilà, voilà. Alors, j'en profite dans le cadre de cette petite parenthèse pour informer toutes celles et ceux qui nous écoutent, ou pas d'ailleurs, peu importe, Vous pouvez effectivement contacter le cirque en cas de problème avec la police et la justice. On a quand même quelques personnes qui nous contactent régulièrement et en ce moment particulièrement.
Et on a quelques billes juridiques quand même et quelques avocats.
Ouais, alors en effet, c'est important de dire ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est surtout à toutes celles et ceux qui ont des soucis, c'est de vraiment ne pas attendre le dernier moment pour nous contacter, parce que là, on pourra vraiment rien faire. J'en profite également pour vous dire que nous, on connaît quand même un ou des professionnels du droit à Lyon, mais que malheureusement, on ne connaît pas tous les avocats spécialisés ou qui pourraient éventuellement l'être, et il y en a très peu. Hein. En France, il doit y en avoir deux sur le droit des stupéfiants. Il y en a un à Paris et un autre à Montpellier, et encore, je ne suis pas sûr que celui de Montpellier soit un avocat en exercice. C'est un universitaire, certes, mais je suis pas certain, mais voilà, c'est quand même un droit, une spécialité du droit qui, en France, est quand même assez peu pratiquée. Faut quand même en avoir conscience. Je dis ça parce que voilà, parfois on a quand même des gens qui nous contactent, qui nous demandent les coordonnées d'un avocat spécialisé à Tourcoing ou ailleurs, je sais pas. Enfin, non, malheureusement, ça n'existe pas. Il y a un avocat vraiment connu, spécialisé en France, c'est Francis Caballero, il est à Paris. Il a travaillé pendant longtemps, et je pense que c'est toujours le cas, avec un autre juriste qui s'appelle Yann Bizou, qui lui est prof à Montpellier, à l'université. Voilà, en dehors de ça, malheureusement, ils ont fait assez peu d'émules. Alors il y en a d'autres, j'en suis convaincu, je pense qu'il y a quelques autres, peut-être 4 ou 5 autres avocats en France qui sont vraiment spécialisés sur la question du droit de la drogue, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup plus. Et que si vous n'en trouvez pas proche de chez vous, le mieux c'est encore de se rabattre sur un bon pénaliste, voilà, quelqu'un qui connaît bien le droit pénal. Voilà, si vous êtes à Lyon, c'est encore plus simple. Là, on peut vous orienter vers des personnes qu'on connaît. Voilà.
C'est ce que le cirque. Et le cirque existe depuis 25 ans.
À Paris.
Et donc,
petit communiqué de presse. Voici son petit anniversaire.
Voilà, évidemment. Il s'agit d'un anniversaire que nous aurions aimé ne pas l'avoir fêté. Cela aurait alors voulu dire que la prohibition de notre drogue de prédilection était terminée, qu'enfin les cannabinophiles étaient reconnus dans leurs droits, que leur liberté était respectée. Eh ben non, un quart de siècle après, on en est toujours au même point, on utilise toujours les mêmes arguments. Toujours le bon sens du pragmatisme face à d'irréductibles croisées de la guerre à la drogue, qui agite des pires imbécilités anxiogènes, et que les autorités politiques, qui font toujours preuve d'autant de courage, suivent, et en tout cas ils ne disent rien. Les temps changent pourtant. Outre-Atlantique, il y a un mur qui s'écroule. Comment ça va-t-il changer ?
Je peux reprendre là ?
Vas-y.
Outre-Atlantique s'écroule, le mur de la prohibition qu'on a peine à fendiller ici, en France. Les faits sont là, cependant, pour signaler l'échec cuisant d'un dogme aussi criminogène que dangereux. Règlement de compte sanglant en série, corruption des institutions policières, on n'en parle pas suffisamment, développement et enrichissement des réseaux criminels, explosion de la consommation, en particulier chez les jeunes. Que faut-il de plus pour abandonner un système aussi inefficace ? Pourtant, le cirque ne désarme pas. Les échéances électorales seront sans doute l'occasion de mettre en place ce grand chantier de la régulation de la filière récréative et thérapeutique du chanvre et du cannabis, en tout cas de l'évoquer. Un chantier où la société civile pourra proposer des solutions que les autorités semblent mépriser aujourd'hui. Le temps n'est plus à savoir s'il faut ou non changer les paradigmes, mais comment s'y prendre ? Comment apaiser un climat social tendu du fait de la prohibition et du harcèlement quotidien dont sont victimes les jeunes cannabinophiles surtout, et principalement ceux issus des quartiers populaires et des minorités dites « visibles » entre guillemets. Le cirque fête ses 25 ans demain, vendredi 21 octobre, donc c'était vendredi dernier, en espérant ne pas avoir à souffler ses 30 bougies. Malheureusement, je crains qu'on ait à les souffler dans 5 ans. Son histoire, celle du cirque, ainsi que celle de cette odieuse loi du 31 décembre 70, est relatée dans les deux volumes d'un ouvrage de référence que personne ne connaît et que tout le monde ignore superbement, c'est dramatique. Cannabis, 40 ans de malentendus, paru aux éditions Trouble Fête et dont l'auteur n'est rien d'autre que Jean-Pierre Galland, l'un des fondateurs de l'association en 91. Il est une incontournable source d'informations pour comprendre l'époque que nous vivons aujourd'hui et toujours disponible. Voilà. Voilà, voilà. Pour les 25 ans du cirque. Et voilà, et encore une fois, je répète, hein, je crains que dans 5 ans, on ait à souffler les 30 bougies. Tant les choses évoluent rapidement dans notre pays.
Mais peut-être voilà. Que ça ira plus vite grâce à l'ONU, grâce à 2018,
à l'ONU
2019.
Ah.
Ah oui. On verra, on verra. Ça va à son rythme, mais ça avance plus vite. Ils se sont rendus compte que la prohibition était absurde, c'est déjà pas mal.
Je crois que ça ira plus vite aux États-Unis qu'à l'ONU. Hein. Je pense qu'il faut d'abord que ça aille vite aux États-Unis, au Canada et dans un certain nombre de pays d'Amérique du Nord et latine. Après, à mon avis, ça ira un peu plus vite à l'ONU. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça va se passer. Voilà. Puis à l'ONU, hein, faut voir ce qui se passe quand même au niveau international avec Rodrigo Duterte, là, le président philippin, qui est un sinistre personnage et un prohibitionniste criminel. Voilà ce que c'est, ce type. Donc ça craint quand même. Voilà. Alors, maintenant, on va, si vous le voulez bien, évoquer un peu la question du cannabis au volant dans notre pays, avec un article hyper intéressant de LCI.fr. Intéressant parce qu'il clarifie un certain nombre de choses qui ne sont pas très simples à comprendre pour beaucoup de gens. Alors nous, on avait compris, hein, mais là, en lisant l'article, j'ai été assez content de voir quand même qu'un média un peu mainstream s'intéresse au sujet et informe et déconne un peu les dessous de la chasse aux conducteurs qui ont fumé. Et pas la chasse aux conducteurs sous l'emprise du produit. Hein. C'est bien la nuance qui est signalée par cet article et par... Alors, un avocat qui apparemment semble s'exprimer dans l'article, maître Jean-Baptiste Ledal, qui écrit l'article, hein, je crois que tu as compris comme moi. Mm-hmm. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Alors, on nous dit qu'effectivement, la loi de pénalisation de la consommation stupéfiante est une loi assez récente, qui remonte à 2003. Depuis 2003, donc, il y a cette loi qui pénalise la conduite automobile après un usage de stupéfiants. Donc, c'est la loi dite Marie-Lou. Hein, Marie-Lou, une petite fille qui a été tuée par un automobiliste qui avait fumé du cannabis, certes, mais qui avait bu et qui n'avait pas le permis de conduire. Et ça, alors personne n'en parle jamais, mais bon, c'est quand même aussi ça qui a fait qu'il y a eu cet accident. Donc, quelqu'un qui ne sait pas conduire, qui était fortement alcoolisé. Et qui avait certes fumé, mais on sait que le mélange cannabis-alcool fait pas bon ménage du tout au volant. Ou pas bon ménage du tout, tout court. Hein. Alors, alors, comment ça se passe ? Eh bien, dans cet article où on reparle un peu de la loi de 2003, on nous dit que, bah, au départ, hein, le texte avait été appliqué avec un certain discernement par les juridictions pénales. Hein. Tout allait plutôt pas trop mal, hein, jusqu'à ce que la Cour de cassation viennent rappeler que l'infraction prévue et réprimée par le code de la route n'est pas un délit de conduite sous l'influence de produits stupéfiants. Vous avez bien entendu, hein, je le redis, l'infraction prévue et réprimée par le code de la route n'est pas un délit de conduite sous l'influence de produits stupéfiants, mais un délit de conduite après usage de produits stupéfiants. Et la nuance, elle est de taille. Explication. Alors, avant d'aller plus loin, déjà, vous pouvez vous rendre sur le site internet du Cirque Lyon, www.cirque-lyon.fr. Dans la rubrique dossier, vous trouverez un dossier d'explication sur le cannabis au volant, avec un tract d'informations vous expliquant certaines subtilités, justement. Et là, c'est bien expliqué dans cet article. Hein, pour le cannabis, il est parfaitement possible pour un laboratoire de retrouver des traces ou des métabolites du produit plusieurs jours après la consommation.
Et donc, plusieurs jours après la consommation, on est après avoir consommé.
On n'est plus sous l'influence du produit. Voilà. Mais, la loi est ainsi faite en France que Les analyses toxicologiques risquent quand même de conduire le contrevenant qui a pu fumer quelques jours avant devant le tribunal. Voilà. Alors, pour le conducteur fumeur, plus ou moins occasionnel, la mésaventure risque fort de se traduire par une suspension provisoire immédiate du permis de conduire. Cette mesure administrative qui émane du préfet est prise sur la base de grilles faisant correspondre une infraction à un nombre plus ou moins important de mois de suspension. En matière de stupéfiants au volant, la suspension provisoire est souvent de 4 ou 6 mois sans prise en compte des taux constatés sur le conducteur. C'est absolument incroyable. En fait, c'est vraiment, cette loi est discriminante, il faut le dire. Il y a une grosse discrimination entre l'alcool et le cannabis. Bon, en plus, déjà, c'est interdit. Donc, il y a un problème légal, mais de la manière dont ça se traduit dans l'effet répressif, il y a une discrimination. Parce que si, à ce moment-là, on n'a qu'à mettre en place un système de détection de la consommation d'alcool après consommation, donc 4 jours après, on prend le volant. S'il y avait un truc qui pouvait démontrer qu'on avait fumé 4 jours, qu'on avait bu 4 jours avant, hop, on pourrait aussi être arrêté. Voilà. Alors, ça se passe pas comme ça. Pourquoi ? Ben parce que l'alcool est légal.
Il y a un taux.
Et il y a un taux, donc. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on a du mal, même nous au cirque, à faire comprendre à beaucoup de gens. Hein. C'est que le cannabis n'étant pas légal, il n'y a pas question de fixer un taux. Voilà. Donc, on ne va pas chercher à savoir si la personne est sous l'influence du produit. Ce qu'on veut, c'est finalement arrêter du fumeur, quoi. C'est ça la loi. C'est pas une loi de lutte contre l'insécurité routière de gens qui auraient fumé. C'est une loi qui est faite pour encore attraper plus de fumeurs de cannabis, tout simplement. Alors voilà. Donc pas de taux, mais des sanctions parfois lourdes. Donc voilà, ce qu'on disait, c'est que c'est illégal le cannabis, donc
suspension de permis 6 mois, retraite 6 mois sur le permis, inscription au casier judiciaire aussi, plus amende. Non, ça peut être pas mal.
Ouais, ça peut être pas mal. Comment ça peut être pas mal?
Ouais, ça peut être très cher.
Ah ok, oui, ça peut aller loin. Ouais.
La sévérité du dispositif législatif a souvent été dénoncée.
Et oui, il y a des avocats qui ont essayé de.
Il sera rappelé que contrairement à l'alcool, les produits stupéfiants ne font l'objet d'aucune information sur le dosage de la substance consommée et que les effets secondaires peuvent survenir longtemps après la consommation et surtout que la consommation de produits stupéfiants, même du cannabis, demeure interdite en France.
Alors là, ça devient intéressant.
Ce qui arrive, c'est déjà arrivé, c'était en expérimentation, c'est le test salivaire.
Le deuxième test salivaire confirmant le premier. Parce que jusqu'à présent, il fallait un test sanguin. Mais, c'est pas fini. Et donc, c'est là que ça nous intéresse. Surtout, j'ai envie de dire, c'est un peu sur les recours possibles de l'usager qui se serait fait choper, quoi, en fait. Hein. Donc, qu'il s'agisse d'alcool ou de stupéfiants, je lis, hein, le principe est celui d'un droit à une nouvelle expertise. Voilà. C'est le fameux droit au second souffle pour les contrôles d'alcoolémie opérés par éthylomètre. Et c'est la même chose pour les stupéfiants. Enfin, voilà. Jusqu'à présent, donc, la procédure était assez simple. Le prélèvement sanguin opéré en cas de dépistage positif était réparti dans 2 flacons. Dans le cas où le conducteur sollicitait la contre-expertise, le second flacon était ressorti pour analyse. Mais avec le prélèvement salivaire, le gouvernement donne moins de droits aux conducteurs contrôlés. Et il y en a moins, mais il y en a quand même un peu. La contre-expertise ne sera à l'avenir possible que si le conducteur la demande immédiatement. Donc voilà, c'est là. Et là, il faut qu'on améliore notre information et notre acte. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé et qu'on ne savait pas forcément. Parce que comme je le disais un peu juste avant, les professionnels... du droit des stupéfiants, et ils sont pas légion en France, et voilà, c'est pas évident de voir les infos qu'il faut et tout, donc là, on est content d'avoir cet article. Hein. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que si on vous fait un test salivaire, et si vous voulez contester, c'est-à-dire tout de suite au moment où on vous fait le test salivaire, il faut immédiatement que le conducteur demande tout de suite qu'il y ait une contre-expertise. Voilà. au lieu de prévoir directement un double prélèvement sanitaire salivaire, il faut savoir que le gouvernement a préféré ne prévoir qu'un unique prélèvement salivaire tout en proposant à l'intéressé un prélèvement sanguin pour se préserver la possibilité de demander ultérieurement la contre-expertise. C'est pas simple. Hein. Mm-hmm. Donc ainsi, lorsque les taux relevés par le laboratoire sur le prélèvement salivaire seront notifiés à l'intéressé, il lui sera proposé une contre-expertise, mais uniquement s'il a demandé le prélèvement sanguin lors du contrôle. C'est-à-dire que voilà, c'est bien à ce moment-là, quand vous faites le contrôle, vous êtes contrôlé, on fait le premier test salivaire, tout de suite, il faut demander une contre-expertise pour qu'on puisse vous donner la possibilité de faire l'objet d'un contrôle sanguin. Voilà.
Et au moins d'un deuxième test de salivaire de confirmation.
Oui, si possible, oui. J'avoue que même là, c'est bien expliqué, mais je ne suis pas sûr que ce soit super clair, en fait. Hein. Alors, j'aime bien ce qu'il dit dans l'article après, parce que l'avocat, c'est un avocat, hein, maître Jean-Baptiste Laudal, qui écrit, et il est quand même assez au courant des procédures et de comment ça se passe dans la pratique, et il dit comme ça, on imagine bien que peu de conducteurs solliciteront ce prélèvement sanguin, avec des agents qui leur expliqueront qu'une telle démarche est bien sûr possible, mais qu'ils devront patienter des heures ou toute une nuit dans les couloirs d'un hôpital pour attendre qu'un médecin puisse les prendre en charge. Le conducteur qui, de toute bonne foi, pensait que l'analyse ne révélerait que d'infimes traces de cannabis et se verra notifier des résultats indiquant, par exemple, une consommation importante de cocaïne, d'héroïne, de GHB et de la dernière drogue de synthèse à la mode, ne pourra, par contre, plus demander de contre-analyse. Voilà. Donc, pour résumer, si vous êtes à un moment contrôlé que vous voulez demander une contre-analyse, alors déjà, il vaut mieux n'avoir pris que du cannabis et pas d'autres substances, parce que là, dès qu'il y a polyconsommation et qu'on en constate les traces dans votre organisme, visiblement, ça annule la possibilité de demander une contre-expertise. Et surtout, élément crucial, c'est qu'au moment où vous êtes contrôlé, qu'on vous fait le test salivaire, immédiatement, il faut demander la possibilité d'avoir une contre-expertise. À ce moment-là, et uniquement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, genre 24 heures après, c'est plus possible. Déjà, vous n'êtes plus dans votre bon droit et vous ne pouvez plus demander une contre-expertise. Voilà, très intéressant. Cet article que je vous recommande, donc, lci.fr. Stupéfiant au volant, attention, le gouvernement serre la vis. Voilà le titre de l'article, un article du 15 octobre dernier, avec les explications d'un avocat dont on peut lui faire confiance, maître Jean-Baptiste Laudal, que, voilà, je pense que si vous êtes équipé d'Internet, que vous avez accès à une page web, vous pouvez taper dans votre moteur de recherche maître Jean-Baptiste Laudal, LEDAL, voilà, Laudal. Voilà, et peut-être que si vous avez un problème de consommation au volant, de test salivaire, peut-être qu'en faisant comme ça, vous pourrez prendre contact avec cet avocat qui pourra très certainement vous conseiller. Voilà.
Allez, sur la drogue, guerre totale.
J'ai pensé que peut-être on pourrait nous permettre de fumer nos bêtes. Se retrouve dans la fête et que ce commerce fait recette.
Va te faire mettre.
J'ai compris en fumant que fumer c'est de l'argent.
Et des gens donnent à des gens
qui allègrement amassent les bagues en diamant
sur le dos de pauvres paysans. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution. Des tonnes de graines pour des hectares de plantation.
Faites fleurir les jardins,
décorer les balcons. Et expliquez à vos voisins que fumer vous coûte du pognon. Je veux fumer de l'herbe de qualité. Boucher trou de la sécu en fumant mon tarpé.
Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité.
Qu'on arrête de me considérer comme un drogué. Alors c'est bon, bang, boom. J'ai la solution. Des tonnes de graines pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds l'eau.
Qu'on n'arrache pas tous mes pilons. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pilons. Y'a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pilons. Mais faut bien espérer. J'ai pensé que peut-être tout c'est une malhonnête.
Serve à nos dirigeants
qui s'entêtent et répètent à dire que la fumette
c'est pas bon pour les gens.
J'ai compris que pour du chichon, tu peux aller en prison.
Que l'alcool tue à foison.
Que si la légalisation n'est pas le mot d'ordre de ces bouffons,
c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Alors c'est
de plantation. Faites fleurir les jardins, décorer les balcons.
Expliquez à vos voisins que fumez vous petit pognon.
Je veux fumer de l'herbe de qualité. Boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé. Ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité. On arrête de me considérer comme un drogué. Alors c'est bon, bang, boum, j'ai la solution. Des tonnes de graines pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison. Y a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds. Alors c'est bon, bang, boum.
Tu vois?
Ben donc nous revoici
en direct dans l'émission Cannabis Circus. On vient de s'écouter Trio La Main Verte.
Voilà, tout ça. c'est ça. Et on rattaque un peu avec l'actualité plus franco-française avec Mediapart qui a fait 2-3 articles là-dessus. Donc cannabis, pourquoi faut-il légaliser? Donc c'est écrit par Mathieu Manudex.
Premier article qui n'est pas très intéressant, c'est le deuxième qui est bon.
Un débat entre l'addictologue William Lovenstein et le sociologue David Weinberger. Voilà, moi j'ai retenu une phrase qui m'a plu de Lovenstein, c'est « Le système enrichit mafia sans frontières. La mafia est la principale ANPE des quartiers. »
Oui, voilà, c'est la formule Lovensteinienne, mafia sans frontières. Mais c'est vrai que c'est
et
assez
la mafia
parlant.
Est la principale ANPE des quartiers aussi, assez passionnant. Voilà,
constat effectué par des centaines de sociologues qui travaillent sur la question un peu partout en Occident. D'ailleurs, c'est
voilà.
Pas nouveau. Hein.
Donc, deuxième article, on va essayer d'aller vite. Cannabis, cessons de faire peur. Donc, c'est toujours Mathieu Manudex qui nous écrit ça dans Mediapart. Et là, donc, il nous parle de Esther Benbassa, dont on a pas mal parlé la semaine dernière, puisqu'elle vient d'organiser au CELA un colloque sur le cannabis.
Et sa légalisation.
Et sa légalisation,
surtout.
Tout à fait. Et elle prône une légalisation contrôlée. Elle rappelle que ça ferait pas mal, ça souligne tous les avantages d'une législation encadrée pour la santé publique et les finances de l'État, donc il y a une petite démonstration là-dessus. Elle rappelle que la cannabis reste un sujet extrêmement inflammable en France, vous êtes peu nombreux à plaider pour cette dépénalisation, encore moins à souhaiter une légalisation. Et donc Esther Benbassa répond « C'est incroyable, nous sommes le pays le plus répressif d'Europe et pourtant nous avons une augmentation constante des consommateurs. » Voilà, on reviendra peut-être là-dessus si y a les chiffres d'ESPAD, on parle plus de la jeunesse. Elle rappelle que c'est une question de santé publique qui nécessite une légalisation contrôlée, de la prévention et de l'accompagnement. Si la répression marchait, elle limiterait la consommation, cela se saurait, c'est tout le contraire. Voilà, elle rajoute, il ne faut pas juste une dépénalisation, il faut légaliser, encadrer et contrôler. Voilà un petit peu son leitmotiv, après il faut voir dans quelles conditions, mais bon. En tout cas, c'est mieux que la prohibition.
C'est une politicienne que je qualifierais d'éclairée, Madame Benbassa.
Tout à fait, c'est pour ça que je pense que ces termes sont bien choisis, même si... Légalisation encadrée et contrôlée. Voilà. Maintenant, on se répète. Hein. Mais bon. Il faut une légalisation très, 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 très encadrée, très, 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 très contrôlée. Voilà. Ensuite, en tout cas, c'est très bien. On la soutient. On aime bien l'écologie, les Verts qui, depuis un moment, sont pour la légalisation. Et tout ça.
C'est quand même bien argumenté dans son article. Il y a mieux, hein, mais c'est déjà pas mal pour une politique qui, au départ, n'y connaît pas grand-chose au sujet, hein, quand même.
Tout à fait.
Il y a quelques années.
En tout cas, il y a des journalistes aussi qui s'en donnent un cœur joie. C'est pas mal. C'est dans le Sud-Ouest. Dépénaliser ou légaliser. Ou légaliser le cannabis, que font nos voisins européens? Donc bon, c'est assez intéressant, hein. Il rappelle que le débat sur l'évolution de la législation sur le cannabis divise profondément l'opinion publique, hein. C'est le dernier sondage, 50-50.
Divise. J'ai compris, divise.
Divise, 50-50. Il y a des candidats aux primaires qui y vont, il y en a déjà pas mal, hein. On en a parlé déjà, mais il rappelle Benoît Hamon, qui est pour la légalisation, et NKM LR qui est plus pour la dépénalisation. Rappelons aussi à propos que Mélenchon l'est aussi. Bon, en tout cas, il rentre en matière. Bon, il rappelle l'échec de la répression française. Il dit drogue dure, drogue douce, c'est difficile. Il raconte un petit peu ce que c'est. Et en tout cas, il est très didactique puisqu'il rappelle un peu bien toutes les définitions entre légalisation et dépénalisation, la différence. Donc la dépénalisation ou la décriminalisation consiste à retirer à l'usage ou à la détention de cannabis son caractère pénal. Si l'interdit perdure, il n'y a pas d'incarcération pour simple surconsommation de drogue, ni sur possession. La légalisation, actuellement, serait contraire aux règles internationales et consiste à lever l'interdit de l'usage de cannabis et à organiser sa production et sa distribution. L'État donc se substitue au marché clandestin pour réguler l'offre en excluant certains consommateurs, comme les mineurs par exemple. Après, il rappelle les pays où c'est illégal, il y en a 16 en Europe. Et il y en a 12 où c'est dépénalisé. Voilà, donc, on n'est pas les pires des pires. Hein. Malte est pire que nous. On peut aller jusqu'à 8 ans de prison pour simple usage, tu te rends compte?
Ouais, mais enfin, là encore, je trouve que c'est... Je prends l'exemple de la Suède, par exemple. La Suède qui est un pays où on considère le cannabis comme illégal. Bon, il n'y a pas que celui-ci, hein, y a toute une liste, y en a 16. Je pense que c'est pas uniquement par rapport à ce qui s'écrit dans la loi qu'il faut, uniquement par rapport à ça qu'il faut voir. C'est aussi l'application concrète de la loi.
De ce qui se passe. Bah oui, c'est ça.
Non, mais attends, j'ai pas fini. Ah. Ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes les statistiques du nombre d'interpellations à l'infraction, à la législation sur les drogues en Europe et dans les différents pays, en France, on est les champions. Ouais. C'est-à-dire que dans ces pays où même il y a des lois qui sont aussi dures, voire plus dures, il n'y a pas un tel volume d'activités policiers sur l'arrestation des fumeurs de pétards, quoi.
On s'en fout des shiteux, quoi. On fait pas des chiffres.
C'est pas une priorité. Je pense à la Suède. Pourquoi je parle de la Suède? J'y suis allé il y a quelques années. J'ai discuté avec des gens là-bas. J'étais dans le sud de la Suède. Les gens nous disaient oui, la loi est quand même sévère, mais concrètement, la police ne s'intéresse pas à ça. Mm. Donc voilà, c'est toute la différence. C'est qu'on
oui,
a beau avoir des lois.
Ce qui raconte là le Gugus, moi, après avoir rappelé ce que disait la loi française, il rappelle augmentation massive des interpellations. Et ce qu'il dit est très intéressant. D'après les chiffres de l'Institut donc national des hautes études de la sécurité et de la justice, ça ne sort pas de n'importe où, le nombre d'interpellations pour usage simple est passé de 25 000 à 150 000 entre 1990 et 2008, alors que les interpellations pour trafic et usage revente sont restés stables depuis 1990. Ça, c'est intéressant.
Oui, c'est intéressant. J'aurais bien aimé qu'on mette ça en parallèle avec justement les statistiques de l'activité policière dans les autres pays où c'est interdit. Et on aurait vu. Voilà. Enfin.
Mais en tout cas, c'est la première fois que moi je lis cette info.
D'accord.
Non, mais c'est quand même les interpellations pour trafic et usage sont restées stables depuis 1990.
Ouais, parce qu'ils nous bassinent.
Bah oui, non, parce qu'ils nous bassinent que tout le travail sur les simples utilisateurs, ça leur permet de remonter les filières.
Mais c'est faux. On sait bien que c'est des conneries.
Oui, mais on le sait que c'est des conneries, mais là au moins c'est écrit noir sur blanc.
Ah oui, mais on l'a déjà dit.
Pas comme ça. Moi, on en a peut-être déjà parlé. Va savoir.
Effectivement, peut-être que c'était pas si évident que ça pour beaucoup de gens, mais
bon,
t'as raison de
le
rappeler.
Il rappelle le nombre de personnes. Bon, alors sur les 12 pays qui ont dépénalisé, il rappelle que c'est assez contrasté selon les pays. Et il dit des choses assez intéressantes. Hein. Donc, le Portugal, pays pionnier, c'est vrai, on en parle souvent, hein, dès 2001. Donc la consommation de cannabis est autorisée, sa culture est toujours considérée comme un délit, même si elle est destinée à un usage personnel. La vente est également prohibée. Mais on peut en avoir. Et on peut en fumer. En tout cas, le bilan de la loi portugaise est positif. Si la consommation de drogue a légèrement augmenté chez les adultes, elle a nettement régressé chez les jeunes. Après, l'Italie sera peut-être le premier pays européen à légaliser le cannabis. On attend de voir, en tout cas...
C'est possible.
Une loi, mais c'est peut-être comme Esther Benbassa, c'est une loi qui a été posée, qui a été votée, mais qui a été refusée.
Donc s'il y a bien quelqu'un qui a vraiment bloqué pour que ça avance pas aux États-Unis, en Italie sur les lois sur le cannabis, c'est Berlusconi, malheureusement. Bon, on attend qu'il ait dégagé, j'espère en tout cas.
Là, c'est quand même porté par 218 parlementaires. Donc, c'est pour la légalisation de la consommation, de la détention et de l'autoproduction de cannabis. Voilà. On va voir, ça a été posé le 25 juillet 2016, donc en Italie. Après où c'est toléré, alors il y en a deux, hein, c'est l'Espagne et les Pays-Bas. Les Pays-Bas, vous savez, c'est le système atypique. Voilà, c'est de l'économie grise. C'est comme au Portugal, hein, pas le droit d'en planter, pas le droit de s'approvisionner. Donc pour le consommateur, on peut aller au marché noir, au coffee shop. Mais le coffee shop, lui, a des lois drastiques. Il n'a pas le droit d'avoir plus de 500 grammes en stock.
Je crois que c'est même moins que ça.
C'est peut-être même moins que ça. Il n'a pas. C'est du marché gris, puisqu'il n'a pas le droit de s'en fournir. Quoi. Voilà, c'est très, très particulier.
Alors là où c'est légalisé aux Pays-Bas, par contre, c'est au niveau fiscal. Voilà. C'est un peu la manière de faire à la hollandaise. C'est-à-dire qu'il y a une tolérance. Ce n'est pas légal. Par contre, ce qui est exigé, c'est que ceux qui en font commerce payent des taxes et des impôts. Et ça, ils savent faire.
Il rappelle aussi l'Espagne et ses Cannabis Social Club. Donc là-bas, on a le droit d'en planter et on peut en consommer dans des lieux privés réservés à des adultes. Et donc, il y a plus de 500 Cannabis Social Club privés en Espagne, dont 300 à Barcelone.
Oui, c'est un peu l'avenir, je trouve. Je trouve ça bien, moi, comme ça se fait en Espagne.
Voilà, et puis l'article finit sur la dépénalisation, qui est pour, qui est contre, 50-50. Et puis il rappelle ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, mais ça, on va passer, on a déjà un peu parlé, puis on en parle assez régulièrement.
Ouais, c'est vrai. Après, l'article est complet, hein, parce qu'il parle de tout, puis il finit justement par ceux qui sont pour, ceux qui sont contre.
Oui, et puis il est...
C'est bien, ouais.
Il est pas mal, assez objectif.
Ouais.
Un autre qui était pas mal aussi, c'est cannabis, faut-il lever les interdictions ? Alors donc, celui dont on vient de parler, il était de quel journal déjà ?
Sud-Ouest, c'est aussi Sud-Ouest, pareil.
Et là, c'est toujours Sud-Ouest.
C'est toujours Sud-Ouest, il y avait un dossier...
Benoît Lasserre et Julien Rousset, voilà, donc ils repartent des sondages, 50-50. Ils rappellent 1,4 million de fumeurs réguliers, ce qu'ils appellent c'est au moins 10 joints par mois. Voilà, ils rappellent... la dépénalisation ou la légalisation, on en a déjà parlé. L'opinion publique et les politiques très divisées, donc ça on le sait. Le Portugal et l'Uruguay à l'avant-garde, hein, et rappelle notre José Mourica, le président uruguayen, le premier à avoir quand même rompu avec le traité international, puisqu'il a légalisé, même si... Ça a été mis en place après les deux autres États des États-Unis. Et sinon, donc, le Portugal, donc un peu à la pointe depuis donc, 13 ans, qui a dépénalisé, hein, on peut dire, et l'usage de la drogue n'a pas progressé et qu'il reste très bas pour le cannabis. Ouais, t'avais un autre truc à rajouter là-dessus ou pas ?
Non.
Donc on reste toujours dans le Sud-Ouest, cannabis, la France est de la lanterne rouge de l'Europe.
Ah, avec une super interview de Madame Jourdain Méninger, présidente de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Ah, on l'aime bien, Daniel Jourdain Méninger.
Voilà, donc en tout cas ça vient de ça s'appuie sur les chiffres d'ESPAD, hein. Et il rappelle que la consommation de tabac et d'alcool recule chez les lycéens français, mais pas celle de cannabis. Donc voilà, donc il parle de ça, elle fait roule des épaules grâce au tabac et à l'alcool qui baisse un petit peu. Donc,
elle s'enorgueillit de ces faits.
Chez les lycéens, 31% en 2011, ils sont 23% en 2015.
Tu parles de quoi là ?
pour la cigarette.
Ah, pour la cigarette. Ouais,
et pour l'alcool aussi, il y a un peu moins de jeunes qui fument. 67%,
qui boit.
67% en 2011 à 53% en 2015. Ouais, elle est toute contente là-dessus. Mais si la cigarette recule, pas le cannabis, pourquoi? C'est exactement le contraire que la cigarette. Le cannabis est banalisé malgré les dangers qu'il représente. Il y a une grande tolérance de la société par rapport au cannabis, mais je me demande comment on peut arriver sur de telles insanités. La génération des parents des lycéens, elle-même, en a fumé. Dans nos campagnes de prévention, nous devons trouver les moyens de convaincre les adolescents de résister à la pression des copains qui encouragent à fumer. Il faut casser l'image cool du cannabis, dire que c'est ringard, que c'est une drogue de vieux. Mais ouais, moi je veux bien que ça soit une drogue de vieux, mais légalisez-la, quoi, c'est tout.
Ouais, et puis alors attends, quand même, l'histoire de les parents qu'on a fumé et qui du coup, ben, il y a une espèce de tolérance, et alors qu'en fait, ça marche pas comme ça. Et nous, on connaît même dans notre entourage des gens hein, qui sont des fumeurs, et ben, comme souvent d'ailleurs, les enfants prennent le contre-pied des parents, et surtout ne veulent pas en fumer. Hein. Ça aussi, c'est une vraie réalité. Il y en a beaucoup qui adoptent ce comportement, donc ça ne marche pas, quoi. C'est pas vrai que de dire ben, les parents ils en ont fumé, donc ils ont un peu plus laxiste là-dessus, et du coup leurs enfants ont fumé. Non, c'est vraiment, vraiment pas si simple. Et puis globalement, hein, cette histoire de grande tolérance de la société par rapport au cannabis, non, mais je sais pas où elle habite, elle, hein, franchement. Je sais pas, vraiment, je sais pas, peut-être elle vit sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon.
Ce qui est quand même vrai, c'est que de plus en plus, dans pas mal de feuilletons, dans pas mal d'émissions, il y a des petites réflexions sur le cannabis, et c'est permis.
Mais moi déjà, je trouvais ça quand j'avais 18-19 ans, et c'était il y a plus de 20 ans.
Oui, mais...
Ça n'a pas changé aujourd'hui, c'est pareil.
Il y a eu une baisse, et là de nouveau, la tolérance réaugmente.
Ouais.
C'est un sentiment après.
Moi je pense qu'il y avait beaucoup plus de tolérance il y a une vingtaine d'années. Encore une fois, on reprend toujours cet exemple, mais il est quand même de taille. Faut voir un peu quand même le boulevard, et on aurait pu les remercier à l'époque. Le boulevard qu'avait ouvert Canal Plus à la cause, en invitant Jean-Pierre Galland deux fois dans Nulle part ailleurs avec Decaune et Gildas, en faisant une émission qui s'appelait 24 heures sur le cannabis et la Hollande, qui était extrêmement intéressant, qui a été vu par des millions de Français et qui a, à mon avis, boosté les adhésions du cirque dans les années 90. Où est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est Bernard de la Villardière sur M6 qui fait des espèces de reportages bidonnés avec une mauvaise foi et une espèce de bêtise récurrente, parce que c'est pas la première fois. Non. Honnêtement, il y a une crispation de la société française sur cette question et des politiques avec eux, avec elles. Voilà, c'est tout. On aimerait bien qu'il y ait plus de tolérance. S'il y avait plus de tolérance, à mon avis, on aurait déjà fait changer la loi. Voilà, excusez-moi encore de me mettre en colère.
Donc elle est toujours pour l'interdit, hein, la chère présidente de la MILT. Et elle pense que dans l'idée, ça serait de transformer le délit de consommation en contravention. C'est une idée de plus en plus soutenue à gauche et à droite. Ouais, c'est une idée de faux cul, mais...
Ouais, ouais, une idée qui est de dire « Oh là là, il faut arrêter la répression et tout. » Alors au lieu de faire une répression avec peine de prison à la clé, on va faire une répression avec amende. Donc on vous tape sur la gueule, mais moins fort. Voilà, bon, on est content, tiens. On est content. Ouais. On va se taper sur le ventre avec ça. Non, ça vaut rien. Nous, ce qu'on veut, c'est ni l'un ni l'autre. Ce qu'on veut, c'est une loi claire, une légalisation, en bonne et due forme, correcte, qui prenne en compte la prévention, l'accompagnement des jeunes ou des gens qui pourraient souffrir de leurs addictions, quelles qu'elles soient, que ce soit au cannabis, à l'alcool, aux jeux vidéo, aux cartes, ou au sexe, ou au sport, ou j'en sais rien. Bref, aïe aïe aïe, ça viendra, on se rassure. Bon, il nous reste 3 minutes, on a fait à peu près le tour de la revue de presse. Alors on peut peut-être finir quand même, on me dit qu'il y a le temps, donc on peut parler un petit peu du Queensland et de l'Australie peut-être. Qu'en penses-tu? Bon, il est d'accord.
Ouais, 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 ouais.
On t'entend pas là, t'es trop loin. Bon bref, du coup moi je vais vous parler un peu de l'Australie et...
Ouais, cool.
Et
ouais.
Du Queensland. Non mais...
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
T'en veux?
On a le temps.
C'est quoi?
Du bon. Poppers.
Non non, je te remercie.
Vas-y, je t'en prie.
Ok, t'as rangé ta casserole?
Non, c'était juste pour faire diversion, le truc, qu'on respire entre deux sujets.
Bon.
Je t'en prie.
Donc, voilà, on nous reste 2-3 minutes et chasseur de son, pas complètement prêt, le DJ non plus, donc on branche encore les fils et tout ça. Et donc, on va finalement pouvoir parler un peu plus du Queensland et de l'Australie.
Et de la Belgique. Hein.
Et de la Belgique.
Le PS qui veut forcer le débat politique sur les drogues et sortir du statu quo. Donc c'est le PS
belge.
Espagnol, belge, pardon, avec Elio Di Rupo.
Elio Di Rupo. Ouais.
C'est pour ça que j'ai transformé, c'est son nom, Di Rupo, monsieur Di Rupo. Donc les politiques répressives sont un échec total, a-t-il conclu. Donc le monde politique n'ose pas voir le problème et ose encore moins franchir le pas d'en discuter. Donc, en tout cas, il a décidé qu'il allait faire quelque chose et ils vont en discuter, ils vont faire une proposition de loi pour changer le statu quo actuellement qui est intenable. Voilà, c'est moralement inacceptable. On sait que les jeunes sont à proximité des milieux criminels et on les laisse faire. Voilà, c'est le problème de la prohibition qui mélange toutes les choses, du coup.
Ouais. Et comme on disait en introduction de cette émission, on aimerait bien que au PS en France, ils s'emparent du sujet de manière réelle, quoi. Et pas qu'ils arrêtent de tourner autour du pot depuis des décennies. Mais je crois qu'il n'y a plus rien à attendre du PS français. On se demande encore si ça existe, le PS en France. Il y a un nom, il y a une marque, il y a un emblème, il y a des couleurs, mais ça sonne un peu creux. Voilà. Alors donc, maintenant on va en Australie alors ?
Bah ouais, on va faire un tour dans le Queensland donc.
Voilà, donc qui est une province, un état de l'Australie. Et alors voilà, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, il s'est passé des choses en Australie ces derniers mois, cette dernière année. Et notamment le cas de Rummer Rose. Une petite fille de 4 ans qui est décédée au mois de mai. Donc à l'âge de 4 ans, elle est décédée de quoi ? Des suites d'un neuroblastome. Voilà. Et son papa, Adam Kessler, lui, il avait tenté de soulager les symptômes de ce neuroblastome en utilisant de l'herbe de cannabis. Voilà. Et ce pauvre Adam Kessler, il avait été condamné par les tribunaux à $500 d'amende et à 2 ans de mise à l'épreuve parce que voilà, il avait tenté de soigner sa fille avec du cannabis, en faisant de l'huile de cannabis, donc en essayant d'utiliser les propriétés thérapeutiques de la plante. Alors cette histoire avait quand même fait du bruit en Australie. Les médias s'en étaient emparés de la question. Ils avaient surnommé la petite fille la princesse guerrière. La classe politique elle-même s'était émue de la situation. Et notamment le gouvernement travailliste, donc le Parti Socialiste Australien, qui s'était emparé de l'affaire et qui a décidé d'agir. Ils se sont décidés à ouvrir la législation sur le cannabis thérapeutique et uniquement thérapeutique dans cet état. Donc elle ouvre la voie à tous les patients atteints d'une certaine maladie d'accéder à un traitement de base à base de cannabinoïdes par prescription, après prescription par un médecin. Ça concernera pas seulement les patients en soins palliatifs, hein. Donc à ce titre, Anastasia Palaszczuk, premier ministre ou première gouverneure du Queensland, hein, expliquait que son gouvernement avait été très touché, je cite, hein, très touché par des histoires de familles dans lesquelles des jeunes enfants épileptiques souffraient quotidiennement de crises menaçant leur vie et que de telles manifestations pouvaient être corrigées par l'utilisation de cannabis. Alors je rappelle hein, quand même, ces enfants épileptiques souffrent de formes particulièrement aiguës de l'épilepsie, c'est-à-dire qu'ils peuvent être concernés par plus d'une centaine de crises par jour. Voilà. Tout à fait, ouais. On a déjà parlé de ce cas, d'une petite fille qui s'appelle Charlotte aux États-Unis, qui a pu obtenir une décoction à base de cannabis thérapeutique. Et en lui administrant, ses crises sont passées d'une centaine par jour à 2-3.
Par semaine.
Par semaine, ouais. Ce qui lui permet quand même de vivre. Et oui, d'exister, quoi, en fait. Hein. Voilà. Alors, pour la représentante de l'État du Queensland, hein, elle nous dit, hein, que cette loi fournit tout simplement un cadre réglementaire transparent et robuste pour gérer l'accès au cannabis médical. Tout ça pour éviter de passer par une filière illicite, hein, comme a été forcé de le faire le père de la petite fille.
Voilà, donc le Queensland, comme ça, va mener l'Australie sur le chemin du cannabis thérapeutique d'une manière sûre et contrôlée.
Voilà. Alors, le gouvernement local n'a pas lésiné sur les leviers de protection. Voilà. L'usage du cannabis médical sera intégré dans le plan de traitement de chaque patient. Et sera supervisé par un médecin qui assurera une surveillance optimale de son état de santé. Voilà, donc c'est une loi qui devrait rentrer en application dans les prochains mois.
Voilà, il faut quand même préciser que ni l'usage récréatif du cannabis, ni sa culture pour usage thérapeutique ne sont concernés par cette législation.
Oui, donc voilà, c'est encore assez restrictif, mais bon, déjà en plus, bon, on peut quand même, enfin, un malade même mineur peut se voir prescrire du cannabis thérapeutique. Ça, c'est quand même assez unique. Faut le rappeler, quoi.
Ouais, tout à fait.
Voilà.
Donc bah voilà, c'est comme ça que ça va se terminer. On vous rappelle Cannabis Circus, Cirque 06 11 53 10 07, puis www.cirque-lyon.fr. Pourquoi il y a des contrefaçons?
Pardon?
Il y a des contrefaçons.
D'accord, j'ai pas capté le début de ta blague, mais...
C'est pas grave. Donc, cirque-lyon.fr.
Voilà. Maintenant, bah, c'est chasseur de son. Jusqu'à... Oula! Jusqu'à 23h au moins. Jusqu'à temps qu'on veut, même, pareil. Voilà, donc le DJ, elle est bientôt prêt.
Et nous, on est parti.
Et nous, on s'en va, et à la prochaine. Peut-être à la semaine prochaine, mais pas sûr, parce que bon, c'est un 31 octobre, et voilà, il y aura pas de...
Et un grand week-end.
Un grand week-end en perspective, donc on n'est pas sûr. Sinon, à bientôt, dans 15 jours. Au revoir.